Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ravi de vous accueillir ce soir dans cette édition co-diffusée sur nos deux antennes. L'Italie, à l'heure de Giorgia Meloni, la leader de la droite nationaliste, va sans doute devenir la future première ministre italienne si elle réussit à former un gouvernement d'union des droites avec ses alliés Berlusconi, Salvini et Maurizio Lupi. Comment interpréter ces résultats italiens, symbole de la colère d'une partie des électeurs qui estiment ne pas être entendus par les politiques au pouvoir? Une telle union des droites est-elle inenvisageable en France ou pas? On verra qu'Emmanuel Macron a su respecter le choix souverain des Italiens, tandis que du côté des LR, les Républicains, on lie ce résultat à l'immigration incontrôlée, tout en balayant l'idée d'une alliance avec le RN ou Reconquête. Voilà les grandes lignes, on va en débattre ce soir dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Une période d'incertitude s'ouvre en Italie après la victoire aux législatives de Giorgia Meloni. La dirigeante de Fratelli d'Italia et ses alliés Salvini et Berlusconi vont devoir former un gouvernement. Il verra le jour, ou plutôt fin octobre, avant d'affronter la crise économique face à une Europe des marchés inquiets. Matteo Salvini n'a d'ailleurs pas tardé à réagir, un clin d'œil moqueur du leader de la Ligue face aux mises en garde de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On l'écoute.
La cohérence, la stabilité.
Je pense que les Italiens ont choisi la cohérence, la stabilité. Maintenant, pendant 5 ans, nous sommes tranquilles, j'ai confiance. 9 mois encore de polémique à Bruxelles auraient été terribles. Maintenant, il y a un gouvernement. Je ne sais pas si Ursula von der Leyen s'est bien réveillée. Vive la démocratie, vive la liberté, vive le peuple qui choisit. Je l'embrasse d'ailleurs et j'espère la rencontrer bientôt.
J'espère de l'incontrarla presto.
Voilà pour Matteo Salvini. De son côté, Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre arménien Nicole Pachignan. Le président français dit respecter le choix démocratique des Italiens. Il appelle Rome à continuer à œuvrer ensemble en Européen. C'est en Européen que nous réussirons à relever nos défis communs, insiste encore le président français. Le gouvernement a présenté son budget pour 2023, le premier projet de loi de finances du second mandat d'Emmanuel Macron. Selon le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, la France est à l'euro près, et donc prudente sur toute nouvelle dépense. Et sur la question des retraites, le gouvernement décidera d'ici la fin de la semaine. Écoutez, Bruno Le Maire.
Nous mettrons également en œuvre une réforme des retraites. Nous pouvons le faire de manière juste, à un rythme raisonnable, en garantissant l'efficacité de cette réforme qui doit permettre de financer notre modèle de protection sociale.
Dans l'actualité aussi, la démission de Julien Bayou de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, accusé de violence psychologique sur son ex-compagne. Il a annoncé qu'il quittait la présidence de son groupe à l'Assemblée. Quelques heures après cette démission, Marie Dosé, son avocate, s'est exprimée lors d'une conférence de presse. On l'écoute.
Ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre. Et Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades.
Voilà, on y reviendra dans un instant dans nos débats. Enfin, en Russie, au moins 15 morts, dont 11 enfants, après une fusillade dans une école du centre du pays. Un attentat terroriste inhumain, selon Vladimir Poutine. D'après les enquêteurs, le suspect portait un pull noir à la symbolique nazie et une cagoule. Il s'agit d'un ancien élève de l'école. Il a mis fin à ses jours après l'attaque. Voilà pour les titres de l'actualité. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Nous sommes avec Nathan Devers, agrégé de philosophie. Bonsoir,
bonsoir
Nathan.
Bonsoir Laurence.
Maître Gilles William Goldnadel est là. Bonsoir maître, avocat de votre état. Et nous sommes avec Vincent Herouette, éditorialiste à Europe 1. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Laurence.
On va parler d'Italie si vous le voulez bien. On va commencer par nous rendre à Rome, où Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1, nous attend. Frédéric, comment la victoire de Giorgia Meloni, victoire probable de la leader du parti Fratelli d'Italia, a été ressentie par les Italiens? Frédéric.
En démocratie, c'est celui qui remporte le plus de voix qui gagne, me disait un retraité romain ce matin, pourtant électeur de gauche. Effectivement, depuis mon arrivée à Rome, la plupart des personnes que je rencontre me disent ne pas être effrayées, ne pas avoir peur de ce basculement. Pas tout à fait historique, hein. Rappelez-vous, l'extrême droite avec Matteo Salvini avait déjà occupé de hauts postes. Les Italiens ne sont pas non plus tous indifférents à l'image que cela peut renvoyer dans le reste de l'Europe et du monde. Mais ils se rassurent en se disant que leur système est solide. On ne craint pas le retour du fascisme, m'ont dit tout au long du week-end des électeurs que j'ai rencontrés. Des Italiens de toutes conditions et de tous âges. Bien sûr, il y a des farouches opposants au mouvement que représente Giorgia Meloni qui sont inquiets des tensions que cela pourrait causer entre communautés dans le pays ou d'un bras de fer avec Bruxelles, alors qu'un plan de 200 milliards a été adopté, plan que la coalition des droites souhaite remettre à plat. Mais il n'y a pas de peur panique, il n'y a pas eu de manifestation dans le pays. On peut aussi parler d'un certain fatalisme ou d'une lassitude. La preuve, la forte abstention d'hier. Il y a déjà eu tant de partis au pouvoir, tant de coalitions et rien ne change. Ce sentiment est très ancré. Giorgia Meloni incarne la nouveauté, certains diraient le dégagisme, car à la différence de son partenaire de la Ligue, Matteo Salvini, elle n'a participé à aucun des derniers gouvernements de coalition.
Merci beaucoup Frédéric Michel depuis Rome pour Europe 1. Vincent Herouette, cette victoire probable de Giorgia Meloni suscite beaucoup de réactions, d'interrogations. On entend le mot post-fasciste, néo-fasciste. Est-ce que ça correspond à l'état de ce qui s'est passé en Italie ? Est-ce que la réalité du programme de Madame Meloni ?
Non mais ce procès en sorcellerie, ce slogan fasciste, néo-post-fasciste, etc., on les entend ici, on les entend éventuellement en Europe, à Bruxelles, on ne les entend pas en Italie.
Pourquoi ?
Moi, ce qui me frappe dans ce que dit notre correspondant à Rome, c'est qu'à l'écouter, on a l'impression que la campagne continue, mais il y a eu un vote, ils ont voté hier, ils n'étaient pas très nombreux à voter, mais ils ont quand même voté. Il y a une majorité, alors c'est un système qui est très compliqué, puisque c'est de la proportionnelle intégrale plus de l'uninominale. Donc c'est un truc, ça donne des coalitions fragiles. Mm-hmm. C'est fait pour. C'est fait pour parce que les Italiens se remettent mal de l'expérience, justement, du parti fasciste et de la domination de l'homme fort qu'était Mussolini. Et ils ont tout fait, en construisant la République après, pour éviter que ça se reproduise. On est en train, ils sont, eux, en train d'y réfléchir, d'ailleurs. C'est un des sujets qui sont sur la table, mais qui ne sera pas pour cette majorité. Mais c'est un des problèmes, parce qu'après 10 ans d'instabilité, 2011-2022, 11 ans, eh bien les Italiens ont besoin d'une forme de sécurité. Je ne suis pas sûr...
Stabilité, en tout cas. Ouais.
Stabilité. Je ne suis pas sûr que l'attelage entre Silvio Berlusconi, qui se veut la figure paternelle, le patriarche, Matteo Salvini, qui cherche à se refaire une santé... Et Giorgia Meloni, qui est une, malgré sa jeunesse, 45 ans, est quand même une femme d'expérience, qui a le goût du combat et qui a l'expérience du militantisme. Je ne suis pas sûr que cet attelage dure longtemps, mais on verra.
Bien sûr.
On verra.
Maître Golnadel, sur les qualificatifs, hein, quand on parle de Madame Meloni, post-fasciste, extrême droite, est-ce que, encore une fois, c'est vrai en France et pourquoi les Italiens n'en parlent pas ?
Non, mais écoutez, c'est un psychodrame qui est surtout joué par l'extrême-gauche médiatique en France, et à mon avis, qui ne marche plus. Mm-hmm. Très sincèrement, je pense que ce genre d'épithète, en France, il y a eu d'ailleurs, en France, il y a eu un parti pas post-communiste, communiste, qui a fait partie de l'Union de la gauche en France. Je ne sache pas que la France ait d'ailleurs sombré dans le communisme ensuite. Et puis ça n'a aucun sens. On peut reprocher, ça n'est certainement pas moi qui le ferai, on peut reprocher Mme Meloni d'être très conservatrice.
Oui. Elle dit, mettre un crucifix dans toutes les écoles, pas d'adoption des enfants pour les homosexuels,
non,
ça fait partie
elle
de son
programme. Non, mais elle le dit bien. Elle dit, je suis une femme, je suis une Italienne, je suis chrétienne. Voilà. Elle assume complètement et merveilleusement cela. Ça peut déplaire, pourquoi pas. La liberté, mais enfin, la démocratie a parlé. Je rejoins aussi Vincent Hervouette sur le fait que le système italien crée l'instabilité. À part le système israélien qui est encore pire, peut-être.
Oui, au summum, oui.
Ah oui, l'instabilité. Voilà, c'est ingouvernable. Alors, je ne sais pas si c'est un remède au fascisme, je ne pense pas. Mais ça peut être un remède à la démocratie, malheureusement, parce que ça peut vraiment dégoûter. L'avantage, pourquoi je suis moins pessimiste que Vincent sur la situation actuelle des droites en Italie, c'est que Mme Meloni est très puissante par rapport à Berlusconi et par rapport à Salvini.
Dans les chiffres,
par conséquent, d'une certaine manière,
22-23%,
voilà, donc ça ne leur donnerait pas grand-chose. Alors, vous me direz que les petits partis peuvent toujours faire un petit chantage, mais je crois, alors je suis peut-être... Il y a une sorte d'union sacrée, parce que s'ils ont gagné, c'est en raison de la tragédie européenne, pas seulement italienne, que nous connaissons aussi par
Quelle tragédie européenne
L'immigration et l'insécurité. Et aussi, peut-être, ce qui explique l'esprit conservateur, le wokisme, qui joue aussi son rôle. De ce point de vue-là, j'ai la faiblesse de penser que l'attelage peut marcher.
On parlera là, du mot post-fasciste dans un instant avec vous, Nathan Devers. Un tout petit commentaire, Louis de Ragnel, sur la réaction que ça suscite. Même le président Macron qui dit « Il faut respecter le choix démocratique des Italiens ». Oui, encore heureux. Et il appelle Rome à continuer à œuvrer ensemble en européen. C'est surprenant ou pas ?
La déclaration de Macron ou...
De Macron, oui.
Alors, d'Emmanuel on en parlait Macron, tout à l'heure avec Vincent Hervouet. Moi, je trouvais qu'il faisait plutôt attention. Il était plutôt mesuré. Moi, je me souviens... au moment de la réélection du Premier ministre hongrois Viktor Orban, l'Élysée avait un ton beaucoup plus dur. Ensuite, quand on lit la déclaration que Vincent Hervouet nous a fait parvenir tout à l'heure d'Elisabeth Borne, Elisabeth Borne, elle, pour le coup, a un discours très politique.
Allez,
et c'est vraiment
Vincent,
le féminisme.
La première ministre Elisabeth Borne a souligné que la France serait attentive au respect des droits humains et du droit à l'avortement en Italie.
D'accord. Donc elle va surveiller. Donc
c'est un avertissement, c'est une mise en garde. La première ministre Elisabeth Borne se félicite de l'élection d'une femme première ministre.
Une femme. Ce n'est pas le cas.
Elle met en garde, pour ne pas dire qu'elle met en demeure.
Surtout, elle met en garde sur... Enfin, qui sommes-nous pour... Elle a été élue démocratiquement. Ça veut dire qu'il y a des Italiens qui ont voulu ce programme-là. Enfin, c'est point barre, ça s'arrête là.
On va faire juste une petite pause et après on se posera la question. Est-ce que Mme Meloni est une post-fasciste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me tournerai vers vous, Nathan Devers, pour tenter d'expliquer ce mot. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Il est 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 avec un Vincent Hervouet en pleine forme, avec Maître Golnadel, Louis de Ragnel d'Europe 1, Nathan Devers, philosophe. Un petit mot sur l'Italie, bien sûr, avec cette élection probable de Giorgia Meloni. On fait le point avec Jeanne Cancard et puis on pose la question de ce parti néo-fasciste, post-fasciste dont on entend beaucoup parler ici en France.
Sa photo fait la une des journaux aujourd'hui en Italie. Avec sa victoire aux élections législatives, Giorgia Meloni devrait devenir la première femme à présider le Conseil des ministres. Hier soir, tard dans la nuit au moment des résultats, c'est l'effusion de joie chez ses militants. Le parti post-fasciste dirigé par Giorgia Meloni est arrivé en tête du scrutin. À 2h30 du matin, la gagnante prend la parole consciente de sa victoire, mais aussi de la forte abstention.
Je crois que la situation dans laquelle se trouvent l'Italie et l'Union européenne est une situation particulièrement complexe, qui nécessite donc la contribution de chacun. Et ce soir, je ne peux que regretter les faibles taux de participation.
Dans son discours, Giorgia Meloni cherche aussi à rassurer.
Nous serons appelés à gouverner ce pays, et nous le ferons pour tous les Italiens, avec l'objectif d'unir ce peuple.
Une prise de parole qui a porté ses fruits chez certains électeurs inquiets.
C'était un résultat prévisible. Même si la coalition que je soutenais n'a pas gagné, je pense que nous devons être confiants, déjà parce que c'est une femme, et aussi parce que le discours qu'elle a prononcé après sa victoire était un discours équilibré.
Elle doit prouver qu'elle peut représenter tous les Italiens, ceux qui ont voté pour les partis de droite, mais surtout ceux qui ne l'ont pas fait. Si elle réussit, alors elle sera reconnue comme la chef. Sinon, ce sera une déception.
Giorgia Meloni va désormais tenter de former son gouvernement et devrait rentrer en fonction dans les prochaines semaines.
Nathan Devers, ce mot post-fascisme, qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce que c'est un mot valise ? Qu'est-ce qu'il signifie aujourd'hui ?
Je crois qu'il ne veut pas dire grand-chose. Parce que post-fasciste, ça signifie, ça s'intéresse juste au concept, c'est une succession chronologique. Donc ce qui vient après le fascisme, ça peut être mille et une choses, ça peut être de l'antifascisme, pourquoi pas, ça peut être une succession, un héritage qui reste fasciste. C'est un concept qui est, je trouve, il y a des mots comme ça, dans le discours médiatique mm-hmm. qui sont faits pour créer des malentendus et pour créer des fausses controverses, des fausses polémiques où les uns vont dire une chose, les autres... Et ça va être très caricatural. Me semble, en plus, que dans le cas... dans le cas de Mme Meloni, c'était cette affaire dont on parlait tout à l'heure, de la déclaration de 1996 sur Mussolini.
Sur Mussolini, où elle vantait les mérites de Mussolini.
Elle estimait que c'était un homme qui avait fait beaucoup de bien aux Italiens. Mais il y a une différence entre le programme politique de Mme Meloni et celui de Mussolini, c'est le conservatisme. Je pense que ce qui caractérise le plus la vision politique de Mme Meloni, c'est, sur tous les domaines, hein, que ce soit religieux, que ce soit migratoire, etc., c'est une vision ultra-conservatrice qui, à mon avis, justifierait plutôt davantage de parler de néo-nationalisme. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes référentiels que les référentiels de fascisme. Il y avait un article dans le Grand Continent, la revue Le Grand Continent, qui était très intéressant, qui remarquait d'ailleurs que la culture... conservatrice en Italie, enfin la culture gouvernementale, hein, est assez pauvre. Et que justement, ça fait vraiment un saut là dans l'inconnu, de ce point de vue-là, et qui n'est pas du registre du néo-fascisme.
Mm-hmm. Maître Gonadel.
On dit post-fasciste en France, enfin, notamment l'extrême gauche, parce qu'ils n'osent pas dire. S'ils pouvaient dire fasciste, ils diraient fasciste, hein, ils ne se gênent pas, mais là, ça serait trop gros. Donc, du coup, ils disent post-fasciste, ce qui ne veut plus rien dire, comme il vient très bien de l'être dit. Maintenant, pourquoi néo-nationaliste ? Je pense que c'est un parti nationaliste, ce qui n'est pas, en tous les cas, dans mon esprit, un gros mot. Oui, c'est un parti nationaliste, oui, c'est un parti conservateur, et c'est aujourd'hui... La réaction en Europe, c'est avant tout, il faut le comprendre, c'est moins une victoire de la droite qu'une défaite de la gauche. Et une défaite sur tous les plans. C'est-à-dire non seulement sur le plan de l'immigrationnisme, non seulement sur le plan de la sécurité, mais également sur le plan sociétal. Quand Mme Meloni utilise le discours justement sur la famille... Ça n'est pas pour rien. Donc, dans une Europe qui est déboussolée, on voit bien que le Nord est plutôt au Sud. Voilà.
On va juste écouter Michel Onfray, qui était l'invité ce matin de CNews, sur cette notion de post-fascisme. Il tempère les propos de ceux qui s'alarment du retour du fascisme en Europe. On l'écoute et puis je vous passe la parole, Vincent Ravouet et Louis Dragnel.
À chaque fois qu'on n'est pas pour cette Europe, on est un nazi. Alors évidemment qu'elle elle procède probablement du MSI fasciste, mais s'il faut faire la liste de tout ce dont procèdent nos hommes politiques, je rappelle que Mélenchon vient du trotskisme, vous avez fort bien dit que le PC c'est le pacte germano-soviétique, c'est quand même 2 ans de collaboration avec le nazisme, c'est quand même un antisémitisme forcené à cette époque-là, et personne ne reproche à Fabien Roussel, et c'est tant mieux, le Parti communiste a changé. Le matin, la radio, la télévision, dans les médias, on nous explique que le fascisme est à nos portes, alors que... Il n'y a rien à craindre, c'est juste quelqu'un qui a dit « on ne touche pas à l'Europe ». Si on ne touche pas à l'Europe, on ne touche à rien.
Vincent Hervouet, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition-là ?
Oui, je suis 100% d'accord. Le truc qui me frappe le plus, c'est que le post-fascisme, c'est un mot qui a été inventé il y a déjà 30 ans en Italie, parce qu'il y a 30 ans que la droite s'est associée à une droite plus radicale, qui était à l'époque Alleanza Nazionale, le parti de Gianfranco Fini, qui était véritablement, lui, directement l'héritier du MSI italien, le parti né sur les décombres de l'Italie d'après-guerre. Hein. Donc, c'est un mot, c'est effectivement pour... C'est une manière édulcorée de traiter l'adversaire de facho. En l'espèce, ce que ça veut dire pour les Italiens, ça veut dire qu'ils sont prêts à transgresser l'interdit moral qui pesait sur eux, que notamment la grande presse, mais aussi l'Europe, mais aussi les voisins comme la France, faisaient peser sur eux. Et qu'ils ont décidé, face à un nombre de problèmes, de choisir une autre politique que celle qui avait été menée jusqu'à présent. Notamment sur la question de l'immigration, notamment sur la question de l'insécurité, notamment aussi, ils en ont... C'est un pays qui, depuis 20 ans, les salaires ont perdu 3%. C'est-à-dire que les salaires n'ont pas cessé de baisser depuis 20 ans. C'est un pays où la facture d'électricité a été multipliée par 4 depuis 3 mois. C'est un pays qui a d'énormes problèmes... de ce genre, et une sorte de sentiment que la seule chose qu'on puisse encore faire, c'est essayer de préserver le peu qu'on a gardé. Et ça donne pas véritablement l'envie de de chanter les chants fascistes le matin au réveil ou de passer le voisin, de lui infliger un petit lavement à l'huile de ricin.
On va juste poser la question de cette union des droites qui fonctionne en Italie. Est-ce qu'elle est envisageable en France? Est-ce qu'il pourrait y avoir comme ça une alliance entre le RN, Reconquête et éventuellement une partie des Républicains? Le point avec Gauthier Lebret du service politique de CNews et je vous passe la parole, Louis Dragne. On écoute Gauthier Lebret.
L'union des droites semble bien compliquée en France. Déjà, nous sommes dans un régime électoral totalement différent du nôtre. Évidemment, un régime parlementaire qui est habitué à faire des coalitions. Et d'ailleurs, si Giorgia Meloni a fait un score historique hier, c'est parce qu'elle a refusé d'entrer dans le gouvernement d'Union nationale de Mario Draghi. Et donc, elle était seule dans l'opposition pendant un peu plus d'un an. Évidemment, Éric Zemmour rêve de cette union des droites. Vous le savez, ça a été l'un des thèmes de sa campagne présidentielle. Il a fait un communiqué hier pour se féliciter de la victoire de Giorgia Meloni. Il parle du deuxième succès pour l'union des droites après la Suède. Il dit que le ciment est bel et bien la question identitaire. Malgré leur échec en 2018, Giorgia Meloni et son jeune parti n'ont rien lâché. Vous avez bien compris évidemment le parallèle que cherche à faire le leader de Reconquête. Comprenez que son parti n'est pas terminé, que c'est encore possible. Ce qui est sûr, c'est que Giorgia Meloni, idéologiquement, elle est plus proche d'Éric Zemmour que de Marine Le Pen. Elle est ultra-conservatrice sur les idées de société, opposée par exemple au mariage pour tous et à l'adoption par les couples de même sexe. Elle est libérale sur les idées économiques, bien loin de la fameuse réforme des retraites voulue un temps à 60 ans par Marine Le Pen. D'ailleurs, Le Point rapporte que Meloni aurait confié sur Marine Le Pen il y a un an. Marine Le Pen est démago, elle est de gauche sur le plan économique et progressiste sur le plan sociétal. Et d'ailleurs, la présidente du groupe RN à l'Assemblée a mis un peu de temps à réagir à la victoire de Giorgia Meloni. Elle ne l'a fait que ce matin, en mentionnant également Matteo Salvini, son véritable allié de la Ligue. Alors que ça a été un véritable revers pour lui hier, ses élections. Il a fait entre 6 et 8%. Il s'est véritablement effondré, mais c'est le véritable allié idéologique de Marine Le Pen en Italie. Alors si on transpose ce qui se passe en Italie, ça voudrait dire qu'Éric Zemmour explose et que Marine Le Pen se casse la figure électoralement. On est vraiment très très loin de ce scénario à l'heure où on se parle, puisque Marine Le Pen, vous le savez, a 89 députés à l'Assemblée nationale, quand Reconquête n'en a aucun.
Merci Gauthier Lebret. Scénario inenvisageable en France, Louis de Ragnel, cette union des droites?
Écoutez, c'est un sujet dont on entend parler depuis 15-20 ans et toutes les tentatives qui ont été initiées ont toutes échoué. Je me souviens, il y a 10 ans, même Robert Ménard à Béziers avait essayé d'organiser une rencontre entre tout le monde. Il y a eu plein de tentatives de dîner, de déjeuner secret. À chaque fois, ça a toujours échoué. Et entre les chefs de tous ces partis de droite, c'est la haine absolue, quasiment depuis toujours. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion en France, je me souviens au moment de l'élection présidentielle, les électeurs de droite, eux, sont pas du tout, font l'union des droites sans aucun problème et peuvent passer d'un vote de Marine Le Pen, puis un vote Les Républicains, en passant par éventuellement un vote pour Éric Zemmour. Donc les électeurs de droite, eux, n'ont absolument pas toutes ces questions de cordon sanitaire, toutes ces notions ont déjà complètement volé en éclats depuis de nombreuses années. Donc la difficulté, en fait, aujourd'hui, ce sont les chefs qui ne veulent pas s'entendre. Et je me souviens, je termine simplement par
ça. Il y en a qui veulent réagir.
Il y a quelques années, il y avait un sondage qui avait été fait au sein des militants Les Républicains. Quelle est la personnalité politique préférée des militants LR? C'était Marion Maréchal. Alors là, c'était la douche froide en interne au sein des Républicains, puisque arrivaient ensuite tous les cadres des Républicains. Voilà. Donc c'est simplement pour vous expliquer à quel point les électeurs sont plus à l'aise que les cadres en France.
Maître Golnadel, pourquoi vous réagissez?
Non, mais oui, parce que...
Qu'est-ce qui vous gêne?
Ce qui me gêne, c'est que la donne a changé. Je veux dire, certes, le système électoral français est différent du système italien, sauf que l'union des gauches existe. Mmh. Donc, sur le papier, l'union des droites pourrait, électoralement, largement aussi bien marcher. Ensuite, ce que j'ai entendu par Gauthier, c'est ça ?
Gauthier Lebret.
Par Gauthier. On se doute bien que Zemmour, c'est pas la même chose que Le Pen. Et Salvini, c'est pas la même chose que Meloni. C'est une union... deux partis tout à fait différents. Ça ne marchait pas en France il y a une dizaine d'années à cause de l'interdit. Il n'était pas question, il fallait signer quand on croisait Marine Le Pen. Ça n'est plus le cas. Donc ça n'est plus l'interdit, l'obstacle principal. L'obstacle principal maintenant, c'est que les Républicains sont petits, alors que le Rassemblement National, notamment, est très grand. Et non seulement il est grand, mais il n'est pas réputé pour se marier facilement. Il a une logique de parti assez personnelle. Sauf que ce qui peut changer quand même, ça n'invalide pas ce que Louis a dit, mais ce qui peut changer, c'est la situation. C'est le besoin, c'est d'abord c'est le désir ardent des Français qui sont légitimement affolés par la situation parce que on ne se rend pas compte de cette situation. Et sur le plan migratoire et sur le plan sécuritaire. Donc, au regard de cette situation, ce qui a été vrai jusqu'à maintenant peut ne plus l'être. Le problème, c'est, je pense, c'est davantage encore les Républicains qui ont peur d'être complètement mangés dans la situation dans laquelle ils se trouvent maintenant.
Nathan Devers.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais il y a peut-être aussi deux autres éléments qu'on pourrait rajouter. Le premier, sur les images de cette coalition qu'on voit en Italie, il y a M. Berlusconi, qui a, si je ne dis pas d'erreur, 86 ans. Ou, c'est-à-dire à peu près, à 4 ans près, j'ai vérifié, l'âge qu'aurait eu Jacques Chirac. Et vous voyez, il me semble que même s'il peut y avoir de la porosité du côté des électeurs, du côté des militants qui peuvent voter pour l'un ou pour l'autre, il y a une différence qui est très claire de la part des dirigeants. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez eu en France des dirigeants comme Jacques Chirac, comme plus tard Nicolas Sarkozy, des dirigeants d'une droite qui estimaient qu'il y avait un rideau de fer, un mur même, en quelque sorte, absolument infranchissable. Je ne parle pas du tout début de Jacques Chirac, mais à partir du moment vraiment où il accède aux responsabilités nationales, où il prend cette décision-là, et vous avez en face quelqu'un comme Berlusconi qui a eu une expérience politique en Italie qui a été désastreuse à bien des égards. On connaît son histoire. Et on pourrait rajouter une chose aussi, cette généalogie plus profonde du fait, je le rappelle, c'est important, qu'en France, pendant le XXe siècle, il n'y a jamais eu de suffrage universel qui a voté pour le fascisme, ce qui n'est pas le cas en Italie. Et donc ça fait, je pense, des codes et une culture qui est très différente.
Allez, il est 18h30 quasiment, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
Le gouvernement a présenté son budget pour 2023. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la France est à l'euro près et donc prudente sur toute nouvelle dépense. Le texte est marqué par la flambée des prix de l'énergie et parmi les mesures annoncées, une enveloppe de 935 millions d'euros pour financer une augmentation du salaire des enseignants. Le prix du paquet de cigarettes n'échappera pas à l'inflation. La première ministre Elisabeth Borne l'a confirmé ce matin chez nos confrères de BFM TV. Le prix des paquets pourrait grimper de 70 centimes environ et coûter donc plus de 11 euros pour la plupart. Enfin, on vient de l'apprendre, Vladimir Poutine accorde la nationalité russe à Edward Snowden. Le lanceur d'alerte de 39 ans a fui les États-Unis et obtenu l'asile en Russie après avoir divulgué en 2013 des fichiers secrets. Ils ont révélé des vastes opérations de surveillance nationale et internationale menées par l'Agence nationale de sécurité des États-Unis. Les autorités américaines souhaitent depuis des années que Snowden soit renvoyé aux États-Unis pour y subir un procès pénal pour espionnage.
Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On fait une petite pause, 18h30 sur CNews sur Europe 1. On parlera de sécurité, on parlera de ce qui s'est passé à Nantes, ce viol qui révulse les Nantais, une femme de 40 ans qui a été violée. Et puis ce qui s'est passé à Marseille, là, un policier a fait le feu à deux reprises sur un individu armé d'un couteau qui voulait le poignarder. A tout de suite sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline avec Maître Golnadel, Vincent Herouette, Nathan Devers et Louis de Ragnel. L'insécurité, c'est Nantes, on va en parler dans un instant avec ce viol qui révulse les Nantais, une femme de 40 ans qui a été violée par trois hommes samedi matin. Il y a aussi cette information CNews, cet après-midi à la cité La Paternelle à Marseille, un policier a fait feu à deux reprises sur un individu armé d'un couteau qui voulait le poignarder, individu grièvement blessé, Louis de Ragnel. Les agressions contre les forces de l'ordre, quasi quotidiennes dans notre pays, évidemment, même plus que quasi quotidiennes, absolument quotidiennes aujourd'hui.
Ah bah c'est tout le temps, enfin, ça a explosé, on a déjà beaucoup parlé, mais effectivement, il y a cette banalisation à la fois de l'attaque contre un policier, avec des armes du haut du spectre, et puis parfois, là c'est du très bas du spectre, au couteau, mais ça montre que partout sur le territoire, bien, les policiers potentiellement sont menacés, ils sont menacés quand ils sont en service, mais aussi, souvenez-vous, des policiers de Magnanville, aussi quand ils sont en civil,
chez eux.
Voilà, c'est juste malheureusement une scène de la vie quotidienne en France qui vient encore une fois confirmer à quel point on a sombré dans une violence extrême. Et c'est tous les jours comme ça, on le répète aussi, hein, mais on parle des refus d'obtempérer une fois toutes les 20 à 30 minutes. Voilà, pour l'instant, le drame, c'est qu'on... le risque, c'est qu'à force d'en parler comme ça, il n'y a pas de réaction, en fait. Donc,
mais on en parle, on finit, il faut en parler.
Oui, je suis d'accord avec vous, il faut en parler, mais on finit par s'accoutumer à ça. Parce qu'il y a une absence de réponse politique à ces problèmes.
Nathan Devers, cette violence qui est devenue systématique contre les forces de l'ordre.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez. Et surtout, en fait, on en parle essentiellement dans les cas où les policiers répliquent en situation de légitime défense. Et alors là, on ouvre toujours ce grand débat sur la question de savoir qu'en fait, quand il y a des policiers qui sont agressés, ils n'ont pas le temps de prendre une décision rationnelle. Ce n'est pas comme dans un ordinateur, savoir si tous les critères du code de la déontologie sont validés.
C'est des réflexes
qui est instinctive, ça relève du réflexe. Et on en parle essentiellement dans ces cas-là. La question qu'il faut naturellement se poser, me semble-t-il, c'est comment se fait-il qu'il y ait des individus qui puissent comme ça agresser, quel rapport ça signifie, quel rapport ça exprime entre la police et les policiers et la population, et pourquoi se fait-il que dans certains cas, dans certaines situations, les policiers deviennent des cibles. Voire une bande rivale pour les voyous.
Un mot là-dessus, Vincent Herouette.
Moi, je suis nantais, donc ça me touche un peu. Je suis un peu comme le maire de Nantes qui se déclare très touché.
Alors,
parce que
on va
ça
parler de Nantes maintenant.
Qui s'est passé en bas de chez lui, donc du coup, absolument, il se sent véritablement concerné.
On va quitter Marseille, où on était avec ce policier qui a ouvert le feu, pour aller sur Nantes, où cette femme de 40 ans a été violée par trois hommes sur l'île de Nantes tôt samedi matin. Les trois hommes de nationalité soudanaise ont été interpellés sur les lieux. On fait le point avec ce récit d'Aminat Adem, et puis on en débat ensuite.
C'est dans le quartier de l'île de Nantes, tout près des espaces d'animation et d'exposition, que le drame a eu lieu. Une femme de 40 ans a été violée en se rendant chez une amie, peu avant 6h ce samedi. Selon le récit de la victime, deux hommes alcoolisés la suivent, tentent de lui voler ses affaires, la frappent violemment au visage, puis la violent à plusieurs reprises. Le procureur de la République de Nantes a donné des détails sur les deux hommes d'origine soudanaise, tous deux en situation régulière.
Il y en a un mineur âgé de 17 ans qui est en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de protection subsidiaire. Quant au second, âgé de 27 ans, il est également en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de réfugié. L'un comme l'autre était inconnu des services de police et de justice.
Cette agression accentue le sentiment d'insécurité pour cette riveraine.
Je suis choquée en fait, choquée pour cette femme et outrée, et on en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas se balader en sécurité. Moi j'ai une enfant de 14 ans, il n'est pas question qu'elle se balade toute seule à partir de 20h quoi. Ça fait peur.
Pour l'association Sécurité Nocturne Nantes, les moyens actuels ne sont pas suffisants pour faire face aux agressions.
Ça empire chaque jour. On se lève le matin et il y a un nouveau truc. Il faut vraiment de la présence policière, il faut des patrouilles de police municipale, il faut de la présence. Il faut de la présence, un renforcement des caméras, un renforcement de l'éclairage public.
Les deux suspects encourent une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Leur incarcération a été requise par le parquet.
Symbole de l'insécurité à Nantes, Vincent Herouette, nous disiez-vous.
Ah oui, non, mais c'est tout le temps. C'est-à-dire que c'est une ville de l'Ouest tranquille, mm-hmm, qui est pris dans une espèce de incroyable maelstrom. Ça s'aggrave année après année. Le maire de Nantes était la directrice de campagne de Madame Hidalgo aux dernières présidentielles. On peut réaliser qu'elle fait encore pire qu'Hidalgo à Paris. C'est-à-dire qu'en plus de la saleté, de l'échec patent du chaos en ville, il y a en plus une insécurité qui va galopante, mm-hmm, avec en même temps l'idée que c'est la ville ouverte aux migrants, notamment aux mineurs non accompagnés. Et donc, vous avez des gens qui sont connus. Effectivement, traverser le centre-ville, c'est pas le centre-ville qu'on voyait là, c'est l'île de Nantes, c'est un quartier un peu nouveau au milieu des anciennes usines, mais traverser le centre-ville de Nantes pose aujourd'hui un problème aux femmes en pleine journée. La femme qui s'est fait violer là, c'était en pleine journée, mm-hmm, après s'être fait brutaliser quand même. C'est pas dans un recoin obscur. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'impunité et l'impression que ces notamment les mineurs délinquants sont une espèce de bombes matin, à retardement qui circulent en ville, quoi. Un sentiment de
alors,
grande...
Alors, Louis Dreynel, un petit mot avant qu'on passe la parole à Maître
Juste deux petites remarques. Un, sur la situation politique de la ville de Nantes. La Nantes, il y a 15-20 ans, c'était la ville préférée des Français, où il fallait absolument vivre quand on voulait quitter, par exemple, Paris. C'était la ville de la douceur. À chaque fois, c'était l'Eldorado des Français. Ça faisait une des hebdomadaires.
La ville de la ZAD.
Et effectivement, et en fait, c'est, au nom de la tolérance, au nom de l'ouverture culturelle, eh bien, c'est devenu d'abord la base arrière de Notre-Dame-des-Landes. Ensuite, après ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, après l'évacuation, eh bien, tous les samedis et tous les dimanches, dans le centre-ville de Nantes, il y avait des manifestations où ils cassaient absolument tout sur leur passage, tous ce qu'ils appelaient les symboles du capitalisme, les banques,
les magasins,
même les boulangeries, symboles du capitalisme. Vous voyez, c'est énorme, mais ça va très loin. Et donc, aujourd'hui, c'est, au nom de la tolérance, c'est l'insécurité qui explose partout. Et donc, là, la responsabilité, c'est pas tant... C'est d'abord et avant tout celle de la municipalité. Parce que souvent, tout le monde dit c'est l'État central. Là, mais c'est la municipalité. S'agissant des Soudanais... J'ai terminé.
Allez-y.
Ce sont des réfugiés politiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui, parce qu'ils sont menacés dans leur pays, ou en tout cas disent être menacés dans leur pays, ont frappé à la porte de la France, s'il vous plaît, accueillez-nous. Nous, dans notre grande générosité, on les accueille, on leur offre la protection et donc l'asile. Donc ils sont protégés dans notre pays parce qu'ils sont menacés de mort, etc. La moindre des choses, quand on vous protège, on vous assure la protection, c'est de bien vous tenir. Donc moi, je trouve que politiquement, il faudrait annoncer, et Gérald Darmanin devrait annoncer, l'expulsion immédiate leur pays de ces trois personnes. On se tient à... Mais impeccablement quand on fait... Non mais quand on vous accueille, quand on... Enfin, c'est le monde à l'envers.
C'est impossible avec l'état du droit.
C'est l'inversement des valeurs.
Maître Gonadel.
Moi, j'ai peine à croire qu'il y ait une exception nantaise. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Un natif de Rouen, ayant vécu longtemps à Rouen, je peux vous dire que c'est exactement la même chose. Rouen était une ville formidable. Vous ne pouvez plus sortir le soir. Et ça, c'est complètement adossé à l'immigration. Clairement adossé à l'immigration. Alors, maintenant, on en parle. Vous voyez, par exemple, j'ai fait faire la remarque à TV Nantes hier. TV Nantes expliquait que... Il ne disait pas que c'était des Soudanais. Mais malheureusement, avec les réseaux sociaux, on ne peut plus le cacher. Donc, maintenant, on le sait. Et puis, il y a les résultats. Moi-même, j'avoue que j'ai été surpris. Nous sommes un pays encore moins sécure que le Mexique. Juste avant l'Afrique du Sud et après le Mexique. Quand on sait que Mexico... Et la ville peut-être la moins sûre aujourd'hui du monde. Eh bien, malgré tout, on est encore moins sûr que le Mexique. C'est pour vous dire dans quelle situation nous vivons.
Non, alors, il y a aussi la dimension. Les dealers sont des petits commerçants à côté des grossistes, des narcotrafiquants mexicains. Mais ça va venir, ils grandissent.
C'est comme la mafia sicilienne, les narcotrafiquants savent faire respecter l'ordre dans la rue. C'est un peu différent aussi. Mais la remarque, cela étant, de Louis sur les municipalités, c'est vrai que lorsqu'on se trouve en plus... dans une municipalité socialiste ou écologiste, c'est pas bon pour la sécurité non plus.
On va juste écouter le commissaire Mathieu Vallet sur cette agression à Nantes de cette femme de 40 ans.
D'abord, on sait que ces trois personnes, elles sont de nationalité soudanaise et qu'elles font l'objet d'un titre de séjour pour séjourner régulièrement en France. Et on voit bien qu'on est content du cadeau parce que, en plus de ne pas respecter les lois de la République en s'en prenant un policier, ils ont en plus fait une victime de 40 ans. Sur ces trois individus, il y en a deux qui sont connus pour des faits mineurs des services de police. Et d'ailleurs, je suis étonné qu'on renouvelle un titre de séjour à des gens qui sont connus des services de police pour des faits de matière pénale. Donc, c'est clair, quand on vient en France pour faire des victimes, quand on vient en France pour créer du désordre, on doit être expulsé de là où on vient.
Voilà, Mathieu Vallet, mais c'est précisément, ils avaient le droit d'asile, hein, on est d'accord.
Absolument, c'est deux choses différentes, parce que les titres de séjour, c'est au nom de l'immigration familiale, économique, humanitaire, parfois. Là, pour le coup, pas du tout. C'est parce que c'est des gens qui déclarent être menacés de mort. Donc voilà, moi je pense que ces trois personnes devraient être expulsées. Mais le problème, c'est que quand bien même elles seraient expulsées, aujourd'hui vous avez 80% des déboutés du droit d'asile qui ne sont jamais expulsés et donc sont dans une sorte de no man's land administratif et judiciaire en France. Donc pendant des années, finissent par s'installer, se sédentariser et à la fin, en fait, parce qu'ils s'installent, ils créent une famille, ont des enfants et donc à la fin, on n'expulse plus personne.
Allez, dernier mot là-dessus, Vincent Herouet, avant qu'on avance.
C'est juste un détail. Moi, je ne pense pas qu'il y en a 80%. Je pense qu'il y en a 100%. Pourquoi ? Parce que tous les jours, sur les déboutés du droit d'asile qui sont renvoyés chez eux, il y a 80 Comoriens qui se font arrêter à Mayotte.
À Mayotte.
D'accord.
Et qui sont renvoyés donc à la fin de la semaine ou à la fin du mois par bateau ou par avion.
Donc on gonfle les chiffres,
ça coûte un milliard, etc. Okay.
On appelle le préfet de Mayotte et on lui dit...
Donc, si vous retirez ce qui se passe à Mayotte, où il y a une sorte de... Non pas de chasse à l'homme, mais il y a des souriciens un peu partout, et les gendarmes, donc en arrêtent 60, et les policiers en arrêtent 20, c'est le lot quotidien. Vous en avez 80 par jour. À mon avis, ça suffit
à faire prouver
que en métropole, ce n'est pas un seul.
Allez, ce sont les chiffres hors Mayotte.
Hors Mayotte.
C'est les chiffres métropolitains. Bon.
J'aimerais qu'on avance et qu'on garde un peu de temps pour parler de Julien Bayou, qui a donc démissionné. Il a été accusé de violence psychologique sur son ex-compagne. Il a annoncé aux militants Les Verts sa décision de quitter les fonctions à la tête du parti. Il dénonce une situation intenable. On va juste écouter son avocate qui s'est exprimée cet après-midi, qui dénonce une instrumentalisation politique.
Ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre. Et Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades.
Voilà pour l'avocate de Julien Bayou, Maître Golnadel. C'est Sandrine Rousseau qui avait révélé la semaine dernière les faits qui pèsent sur lui.
Voilà. Il est clair que ma consoeur jette une pierre dans le jardin de Madame Rousseau, qui est à l'origine de la dénonciation de Monsieur Bayou. Alors, il y a deux façons de voir les choses, très clairement. Hein. La première, c'est qu'elle a raison surtout. Bayou, il n'y a rien contre lui. Mais il n'y a strictement rien contre lui.
Il y a des confessions de son ex-compagne à Sandrine Rousseau.
Voilà, mais sur le plan strictement juridique, il n'y a rien. Et il est obligé, en raison de la pression de son parti, et de la pression médiatique aussi, de démissionner. Donc, mon premier sentiment serait d'ordre compassionnel. Sauf que, M. Bayou est l'un des artisans de ce système de la loi de la délation et de la loi du soupçon. Donc, du coup, effectivement, je suis obligé de borner un peu ma compassion.
La délation, c'est-à-dire c'est quoi la délation? Dénoncer les violences faites aux femmes?
Oui, dès l'instant où le nom de quelqu'un, que ça tienne ou que ça tienne pas, est jeté en pâture médiatique, immédiatement, on lui demande de rendre compte, et non seulement de rendre compte, mais même de démissionner ou de se mettre en arrière, parce que dans ce système-là, vous ne pouvez pas résister. Alors, il ne vous a pas échappé que nous ne vivons pas dans un monde idéal. Donc, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a qu'un seul moyen de résoudre le problème, c'est sur la voie judiciaire. Dieu, certes, que la voie judiciaire n'a rien d'idéal non plus, mais on n'a pas mieux en stock. Donc, M. Bayou s'aperçoit, M. Bayou et avant lui, M. Coquerel, et avant lui, tous, j'aurais pas assez de maintenant. Assez, mais... Et puis, il y a un autre système aussi, mais que je veux dire, je tiens à vous le dire aussi, c'est que j'ai l'impression, avoir cette épidémie à gauche, j'ai l'impression, encore une fois, c'est le complexe de Tartuffe. Plus, pardon de vous le dire, moi je me méfie beaucoup des gens qui chantent à la messe le matin, le midi et le soir. En général, ça me rend méfiant.
Nathan Devers, sur ces affaires, Julien Bayou qui quitte une partie de ses fonctions, il reste évidemment élu député.
Moi, j'avais salué, je continue de saluer le mouvement MeToo, qui partait d'un diagnostic qui était juste, qui était de dire que la justice ne permettait pas, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, pour des raisons différentes, ne permettait pas de résoudre les cas de violences sexuelles, soit parce que c'était trop long, soit parce que les plaintes n'étaient pas assez considérées, etc. Donc nécessité à l'époque de dire, très bien, puisque la justice n'est pas suffisante, on court-circuite par les réseaux sociaux. Mais tout en saluant ce mouvement, dont j'estime qu'il était salutaire, je pense qu'il y a un problème qui est comme l'impensé ou l'angle mort du mouvement MeToo, qui est une question presque de méthode. C'est qu'est-ce qu'on fait quand un individu est mis en cause et que soit la justice est très très lente, soit la justice tout simplement n'a pas à s'exprimer, soit parce qu'il s'agit de phénomènes qui relèvent pas du droit pénal, soit parce qu'il s'agit de phénomènes, parfois vous savez, il y a prescription, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La question que j'aimerais poser à l'avocat qui est Julien Golnadel, c'est que par exemple, la présomption d'innocence, bon là c'est pas le cas exactement de Monsieur Bayou, mais la présomption d'innocence, concrètement, quand vous avez un individu qui est accusé de faits graves, qu'il est peut-être innocent, imaginons, et que la procédure va prendre X années avant de pouvoir dire il était innocent. Concrètement, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça veut dire que c'est un droit abstrait, mais dans la réalité existentielle des âmes, qui est encore une fois un principe fondamental de l'état de droit, qu'est-ce que ça devient ? Quand vous avez encore une fois, et là, dans le cas de M. Bayou, c'est encore plus, je dirais, intéressant, quand vous avez quelqu'un qui est accusé et qu'il n'y a pas, il y a aucune phénomène, aucun procédure judiciaire. Qu'est-ce que vous faites également ? Je pense qu'il faut ouvrir ce débat. Un débat très simple, hein, un débat de méthode, parce que sinon, ça va être aucune jurisprudence, du cas par cas, en fonction notamment dans le monde politique, de la conjoncture politique. Parce qu'évidemment, quand on est dans un contexte électoral ou pas, les individus seront pas, y aura pas les mêmes mesures qui vont être prises. Donc il faut qu'on ait ce débat-là, parce que sinon c'est l'anarchie.
Maître Golnadel, vous voulez rajouter quelque chose ?
Bon, d'abord, la prescription, c'est la prescription. Si la personne n'a pas porté plainte en temps voulu, bah, tant pis, c'est quand même la moindre des choses. Pour le reste, je maintiens la proposition que j'ai faite, à savoir que je souhaiterais qu'il n'y ait les noms des personnes ne soient pas jetés en pâture avant la mise en examen. S'il y a une mise en examen, ça veut dire qu'il y a un commencement de début de présomption. Et dans ce cas-là, même si effectivement la personne est présumée innocente, là, il peut y avoir des décisions d'ordre politique qu'elle puisse se mettre effectivement en réserve, si j'ose dire, de la République. Vous ne trouverez pas un autre système. Il n'y a pas de système idéal, je vous le répète.
Vincent Herouet, on a eu l'affaire Quatennens la semaine dernière, l'affaire Bayou.
Il n'y a pas de système idéal parce qu'on connaît des hommes politiques qui ont été mis en examen et qui ont été lavés de toute accusation 15 ans après et leur carrière était ruinée, leur chance était passée, et ils avaient dû abandonner. Il n'est pas sa vie d'État comme il l'aurait pu. J'ai les noms en tête, vous voulez la liste. Mais bon,
c'est
pire que tout. Donc, il n'y a pas de système idéal. Ça, c'est extrêmement injuste. Vous êtes mis en examen, le nom est jeté en pâture et dans une société de tricoteuses où on passe son temps à coller les gens au pilori. Il faut le cadre de la haine quotidienne. C'est sur les médias. On dénonce chaque jour. Il y en a un qui tombe, il y en a un qui est dans le collimateur et qui doit faire son mea culpa. J'en sais rien sur l'histoire Bayou.
Alors, Louis Dragnel, sur cette semi-démission de Julien Bayou, parce qu'il garde ses fonctions électives.
Sur la partie judiciaire, je vous rejoins plutôt. C'est-à-dire que je reprendrais cette phrase, c'était Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat, ancienne ministre de la Famille, et qui disait on a l'impression d'assister à une partie de Baltrap. Et je trouve que c'est assez juste.
Elle a participé.
Bien sûr, c'est juste la formulation, l'image que je trouve assez juste. Ouais. Après, il faut attendre de voir s'il y a une enquête, s'il y a une plainte, si ça suit son cours. Et donc, pour l'instant, Julien Bayou, oui, est présumé innocent. Il n'a même pas été mis en examen. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Et ce que je trouverais terrible, même pour la défense de la cause des femmes, c'est qu'on se rende compte finalement qu'il n'y a rien. Vous imaginez c'est la dimension contre-productive de l'opération de médiatisation de l'événement. Et la deuxième chose que je trouve assez inquiétante, c'est la justice dans la justice. C'est-à-dire que maintenant, les partis politiques, surtout les partis de gauche,
ont des comités de suivi. Mais les LR vont s'y mettre. Bruno Retailleau a dit qu'il allait s'y mettre.
Et tout le monde s'y met. Et regardez les dérives de langage. Quand Sandrine Rousseau parle d'une enquête, je pense à enquête judiciaire. On ne sait pas si elle parle d'une enquête journalistique, si elle parle d'une enquête interne au parti.
Elle a dit journalistique.
Elle l'a dit elle-même.
Et ensuite, ils emploient des mots qui relèvent du domaine judiciaire pour parler de justice interne. Et surtout, attendez, moi, je plains de toutes mes forces les gens qui tiennent les instances de justice interne de tous les partis politiques. Parce que parfois, ils ont de la matière qui n'est pas judiciaire. Ils reçoivent des signalements, mais vous allez avoir des gens qui tiennent ça,
pas aller devant la justice.
Et qui vont être condamnés malgré eux en voulant faire le bien et qui font finalement le mal. Vous savez, c'est dans les exercices de Saint-Ignace, c'est l'ange des ténèbres déguisé en ange de lumière, c'est les fausses bonnes idées.
Là, c'est plutôt le chasseur qui devient le gibier. Hein, ça qui est assez.
Ah bah ouais.
Et c'est à ça qui donne l'impression d'une morale à la façon de La Fontaine avec les écolos.
Attendez
quand même.
Voir le dernier mot.
Et oui, juste pour. Il y a des principes fondamentaux dans l'état de droit. Je vous donne un exemple. Quand M. Emmanuel Bompard, je crois que c'était avec vous, avait rappelé la proportionnalité de la peine. Le fait que les peines sont individuées et que les délits ne sont pas tous identiques. C'est un principe élémentaire dans l'état de droit et même, je dirais, dans la culture, dans le rapport entre guillemets, de gauche au pénal. Et le fait qu'il y ait eu une telle... Alors qu'en plus, lui, il a toujours soutenu, si vous voulez, les mouvements féministes, MeToo. Le fait qu'il y ait eu une telle polémique autour d'une affirmation qui était le béaba du droit pénal, c'était très... Enfin, voilà, c'était
très significatif. Allez, merci beaucoup.
C'est parce que c'était peut-être lui qui tenait ce raisonnement qu'il n'avait jamais tenu non plus.
Nathan Adevert, Louis Dragnet. Merci à tous les quatre. Dans un instant, sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Et sur Europe 1, Europe Soir, avec Raphaël Devolvé et Hélène Zélani. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.